Merci Seigneur, bonsoir à chacun. Je vous invite à ouvrir la Bible dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 6 et le verset 7. Il est question d'un enseignement de Jésus sur la prière. Tout le chapitre 6 serait intéressant à lire, mais ça, je vous le laisse pour la maison. Nous allons nous intéresser à ce verset pour l'introduction. Matthieu 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, etc., etc. Vous connaissez ce passage, notre Père qui est aux cieux? Je crois que c'est un passage qu'on connaît par cœur. Et justement, quand on l'associe avec le verset qui précède, on se rend compte que beaucoup ont commencé à multiplier même de vaines paroles tout en récitant le Notre Père. Et ce soir, je voudrais non pas que nous récitions le Notre Père, mais que nous puissions apprendre des prières qui sont dans la parole de Dieu, des prières très courtes. Vous savez, quand on est dans une situation d'urgence, on ne s'embarrasse pas avec les mots compliqués. Et même si le Notre Père, c'est une prière magnifique, quand on l'étudie, je me souviens de quelqu'un qui avait posé la question, qui disait « Mais ici, vous ne récitez pas le Notre Père. » Je disais « Non, ici, on essaye de le vivre. » C'est ça le plus important. Mais il y a des moments dans notre vie, des moments d'urgence, des moments de difficulté, où peut-être ce n'est pas le Notre Père qu'on a besoin de réciter de manière routinière, mais peut-être c'est une simple prière qui exprime l'état de notre cœur. Vous savez, en 1923, il y a des autorités aériennes qui ont demandé à un monsieur, qui s'appelle Frédéric Stanley Mockford, vous le connaissez tous, j'imagine, de trouver un terme qui signalait qu'il y avait une détresse et que ça soit facilement compréhensible pour tout le monde. Et comme il était dans un aéroport et qu'il voyait des pilotes français arriver, il a discuté avec eux, et les pilotes français disaient, oui, quand on a besoin d'aide, on dit à quelqu'un, viens m'aider. Et cet homme qui était anglophone, il a pris ce mot, m'aider, et l'a prononcé à l'anglaise, et ça est devenu le signal international pour dire on est en détresse. Mayday, 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 vous savez. Et ce soir, on ne va pas apprendre un mayday, mais peut-être revoir dans la parole de Dieu des prières qui ressemblent à un mayday spirituel. Il y en a une de ces prières, elle se trouve justement dans Matthieu, mais au chapitre 14. Un homme qui était dans un grand besoin à ce moment-là, l'apôtre Pierre, au verset 22, on peut lire ce moment où cet homme a donné cette prière, très courte, trois mots. C'est plus simple à apprendre par cœur que le Notre Père. Trois mots, mais qui ont béni cet homme qui a fait cette prière. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Vous avez noté cette prière? Est-ce que c'est difficile à apprendre? Seigneur, sauve-moi. Est-ce que Pierre, à ce moment-là, quand il a prononcé cette prière, il a bien fait de le faire? Mais quand on voit le contexte, une tempête, et même s'il venait d'avoir il venait de faire un pas de foi incroyable, bien sûr, il s'est appuyé sur une parole que le Seigneur Jésus lui a dit de manière précise. On entend encore aujourd'hui des gens qui marchent sur l'eau pour tenter Dieu, pour voir qu'ils sont vraiment chrétiens et qui se noient comme ça. C'est arrivé encore il n'y a pas longtemps en Afrique, je crois que c'était au Congo. Un pasteur qui a dit, venez tous au fleuve, je vais vous montrer comment j'ai une grande foi. Il a commencé à marcher et il a coulé. Et c'est combien c'est dommage et c'est même horrible de voir des personnes faire ça. Et c'est vrai que c'est pas du tout dans ce sens que nous voulons étudier ce passage ce soir. Pierre, quand il a marché sur l'eau, il a reçu une parole de Dieu. Quelque chose de précis, Jésus qui lui a dit « Viens ». Et c'est pour ça qu'il a pu exercer sa foi et commencer à vivre cette expérience particulière. Il fallait quand même avoir un petit peu de foi. Même si le Seigneur lui a reproché « homme de peu de foi », le peu de foi lui a permis quand même de marcher sur l'eau pendant quelques secondes. Est-ce que c'était une belle expérience? Qui ici voudrait revivre la même expérience? Si le Seigneur Jésus vous permettrait, je crois qu'on voudrait tous. Mais même après une belle expérience, c'est pas parce qu'on a vécu une belle expérience qu'il va jamais y arriver de problème par la suite. La preuve en est, c'est qu'il a vécu la belle expérience, mais juste après, il a commencé à couler. Il a commencé à laisser le doute, le submerger, la peur, les événements qui étaient là autour, le temps, les vagues, tout ce que vous voulez. Ça a commencé à torturer son cœur et il a commencé à enfoncer. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit « Seigneur, sauve-moi ». Il aurait pu à ce moment-là commencer à réciter le Notre Père, mais ça aurait pris un peu plus de temps. « Seigneur, sauve-moi », c'est tellement plus simple. Et ça traduisait tellement bien l'état de son cœur. Est-ce que ce soir, on n'a pas tous autant que nous sommes intérêts à faire cette prière? Peu importe le niveau spirituel auquel on se trouve, qu'on connaisse déjà le Seigneur. Pierre, c'était déjà son cas, il connaissait le Seigneur. Mais à ce moment-là, il avait laissé les événements lui échapper, il commençait à se noyer dans un problème, et il avait eu besoin que le Seigneur puisse le sauver. Et puis, peut-être quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, quelqu'un qui n'a pas expérimenté le salut de Dieu, a besoin aussi de faire cette prière. « Seigneur, sauve-moi ». Je crois que quand on ne ressent pas le besoin de faire cette prière, c'est qu'on est comme aveuglé. Peut-être que parce qu'on pense qu'on vient à l'église, on fait des bonnes œuvres, on lit la Bible, peut-être on donne de l'argent à des œuvres sociales, des œuvres bienfaitrices, alors on pense que c'est bon, on n'a pas besoin d'être sauvé. Mais la parole de Dieu ne nous enseigne pas ça. La Bible nous dit que tous les hommes ont besoin d'être sauvés. Jésus a été envoyé dans le monde pour sauver tous les hommes. Maintenant, c'est à chacun d'accepter le salut. Et alors que je réfléchissais à cette prière, j'ai trouvé cette petite histoire qui illustre bien comme quoi c'est bon de prier de cette manière-là. « Seigneur, sauve-moi ». Il y avait un monsieur qui était dans un hôtel et qui voyait une femme qui faisait le ménage. Et il a commencé à parler avec elle, à lui témoigner et lui a dit « Mais madame, est-ce que vous prenez du temps pour prier le Seigneur ?» Et cette dame, elle dit, mais monsieur, il y a beaucoup de travail ici, on a à peine le temps de manger, comment est-ce que vous voulez que je trouve un temps pour faire des prières? Alors ce monsieur lui a dit, mais voilà, je vais vous apprendre une prière très courte, justement. C'était cette prière-là, Seigneur, sauve-moi. Et il lui a donné ce conseil, le matin et le soir, faites cette prière. Et puis cet homme est parti, et les mois ont passé, et puis un jour il est revenu dans cet hôtel, il a appris que cette dame ne travaillait plus là. Il a réussi à obtenir ses coordonnées, il est allé chez elle et il a sonné, tapé à la porte, elle a ouvert et elle était super réjouie. Et elle lui a dit, mais monsieur, le jour où vous m'avez donné cette prière, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors c'est vrai que les 15 premiers jours, je l'ai fait de manière machinale, un peu superstitieuse. Je disais le matin, Seigneur sauve-moi, le soir, Seigneur sauve-moi. Pendant 15 jours, elle a fait ça et puis au bout de 15 jours, elle a dit, mais ça m'intrigue cette prière. Elle a commencé à chercher une Bible autour d'elle et a commencé à lire le passage d'où c'était tiré. Et elle a commencé à lire même les évangiles, tous les versets qui étaient autour, et elle a commencé à comprendre qu'elle avait vraiment besoin d'être sauvée. Que elle, mais tous les hommes qui l'entouraient, tous les êtres humains qui l'entouraient avaient besoin du salut. Et elle a accepté que Jésus soit son sauveur. Et elle a dit, mais maintenant j'ai changé cette prière. Tous les jours je dis maintenant, Seigneur merci parce que tu m'as sauvé. Matin et soir. Et je trouve que c'est merveilleux ce que peut faire une simple prière. Trois mots. Mais comment ça peut changer une vie? Seigneur, sauve-moi. Peu importe là où nous en sommes, comme je le disais. Peu importe les problèmes dans lesquels on est en train de se noyer. Le Seigneur, il est capable d'étendre sa main. Quand Pierre a fait cette prière, aussitôt, il n'a pas dit quelques temps après, parce que c'était aussitôt qu'il avait besoin du salut. Et même s'il avait peu de foi, le Seigneur a exaucé sa prière. Parce qu'il ne faut pas avoir une grande foi pour que Dieu nous exauce. Un petit peu de foi, ça suffit. mettre sa foi en Jésus, le seul qui peut nous sauver. Alors ce soir, oui, ayons la foi dans le salut de Dieu, disons-lui cette prière, Seigneur, sauve-moi. Et vous tournez d'une page, et vous arrivez dans Matthieu chapitre 15, verset 21. Une autre courte prière, il y a autant de mots, trois mots. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, » dit-elle, « mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Amen. Et vous voyez un peu le contraste avec l'apôtre Pierre qui, Jésus lui reproche son manque de foi, homme de peu de foi, et à cette femme, il est capable de dire, « Seigneur, ta foi est grande. » Mais la prière qu'elle a dite, « Seigneur, secours-moi. Seigneur, aide-moi. » Cette femme qui était une étrangère du territoire le Liban actuel, et qui était là, et qui est venue derrière le Seigneur, quand elle a entendu que Jésus était présent, quand elle était dans cette situation comme une maman qui voulait que sa fille s'en sorte, elle a entendu que Jésus était là et elle a couru pour que le Seigneur puisse faire quelque chose pour elle. Est-ce qu'elle a bien fait de se tourner vers le Seigneur? Oui, quand on connaît Jésus, on sait qu'elle a bien fait. Mais quand on voit de quelle manière elle est reçue, on peut s'interroger. Et c'est vrai que la première fois que j'ai lu ce passage, je me demandais pourquoi le Seigneur il a réagi de cette manière. Est-ce que c'est parce que Jésus, il ne voulait pas lui faire du bien? Quand on connaît le Seigneur, on sait que ce n'est pas ça. Mais je crois qu'il y a des fois, le Seigneur permet qu'il y ait des temps où il y ait comme un silence, comme si le ciel était d'airain et qu'on n'arrivait pas à savoir ce que Dieu voulait pour nos vies. Mais dans ces moments-là, qu'est-ce que nous faisons? Il y a eu un moment, un temps charnière pour cette dame, alors qu'elle était en train d'implorer déjà le Seigneur, « Aie pitié de moi !» Et elle explique son problème au Seigneur. Vous êtes d'accord, c'était pas des prières, elle n'a pas multiplié les vaines paroles quand même. Elle expliquait très simplement sa situation. Mais Jésus n'a rien dit. Et encore pire que ça, les disciples, eux, ils ont fait une prière. Seigneur, renvoie-la. Est-ce que c'était une bonne prière, ça? Pas très inspiré, en tout cas. Mais quand il y a eu ce temps où Jésus n'a pas répondu, cette femme, elle ne s'est pas découragée. Cette femme, elle s'est accrochée. Cette femme, elle a choisi d'aller plus loin encore. Elle a choisi de venir se prosterner aux pieds du Seigneur. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand il semble que nos prières ne sont pas entendues, quand il semble que Dieu fait silence dans nos vies, mais en fait, Dieu, il n'attend qu'une chose, c'est de voir comment nous allons réagir à ce moment-là. Il attend de savoir si nous allons courir dans sa présence et nous prosterner devant lui et dire, « Seigneur, secours-moi. » C'est exactement ce qu'elle a fait. Et vous avez remarqué que le besoin, c'était pour sa fille, mais qu'elle a dit, « Seigneur, secours-moi. » Elle s'était approprié le besoin de sa fille. Et c'était comme si c'était elle qui avait besoin du secours du Seigneur. Bien sûr, on imagine la situation, une maman qui voit son enfant tourmenté de cette manière, combien ça doit être un fardeau pesant, quelque chose qui l'embêtait, qui la tourmentait aussi d'une certaine manière, dans son cœur, tous les jours. Et elle a dit cette simple parole. « Seigneur, secours-moi. » Et vous avez vu comment le Seigneur a répondu. « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et il est dit qu'à l'heure même, sa fille fut guérie. Une simple prière, trois mots encore. « Seigneur, secours-moi. » Seigneur, aide-moi à faire ce que moi je ne peux pas faire. Cette femme, face à la difficulté, à l'épreuve de sa fille, elle était totalement impuissante. Elle ne pouvait strictement rien changer à la situation. Mais la seule chose, si, qu'elle a pu faire, c'est de venir à Jésus et de faire monter cette courte prière. Et le Seigneur l'a exaucée. Est-ce qu'il n'y a pas dans nos vies des choses face auxquelles on est totalement impuissant? Que même si on y met toute notre bonne volonté, ça ne va rien changer. Et est-ce qu'il n'y a pas des choses dans notre vie où on a besoin de nous tenir devant le Seigneur à ses pieds et de dire, Seigneur, secours-moi. Tu vois, peut-être telle mauvaise habitude que j'ai depuis des années, je n'arrive pas à m'en sortir. Je me souviens du témoignage qui a été donné au moment des baptêmes, François-Xavier qui disait que pendant des années, il était addict à l'alcool, à la cigarette, toutes sortes de choses, les sorties du soir, et du jour au lendemain, le Seigneur l'a totalement délivré de ces choses. Dieu est tout puissant pour faire cela. Et c'est vrai que quand on essaie de nous en sortir, il y en a qui arrivent dans notre monde, qui arrivent à arrêter de fumer. Mais c'est au prix d'efforts incroyables, ils se mettent des patchs, ils se font toutes sortes de choses bizarres pour essayer de s'en sortir. Mais avec le Seigneur, ce que les hommes arrivent peut-être à faire au bout de quelques mois, le Seigneur est capable de le faire en une seconde. Quand cette prière est montée vers le Seigneur, Jésus a béni sa fille. Est-ce que dans nos familles même, il n'y a pas des situations qui méritent qu'on vienne et qu'on dise « Seigneur, secours-moi ». Oui, ça concerne mon frère qui n'est pas au Seigneur. Ça concerne peut-être mes parents, ça concerne mes enfants. Seigneur, secours-moi. Je veux prendre à cœur leur situation. Je ne veux pas les regarder avec indifférence, mais je veux porter ce fardeau et je veux, Seigneur, que tu puisses intervenir parce que de moi-même, je ne peux rien faire. Une miette de l'action du Seigneur. Ça dépasse tout ce que les hommes peuvent faire. Imaginez un instant, vous allez, je ne sais pas s'il y a un groupe des philosophes de Toulouse qui se réunissent dans un café, mais vous allez voir des hommes très cultivés et vous leur demandez « Comment est-ce que vous pouvez intervenir dans ma situation ?» Et vous aurez sûrement plein d'idées différentes. Allez voir un psychologue. « Ah non, il faut que vous appreniez telle philosophie, etc. » Est-ce que ça ne vaut pas la peine plutôt de dire au Seigneur, secours-moi? C'est tellement plus simple et c'est tellement plus efficace. Parce que je le répète, une miette de l'action du Seigneur, ça dépasse tout ce que les idées des hommes, tout ce que les hommes peuvent faire pendant des années et des années. Le Seigneur, en un instant, peut le faire. Un centenier l'avait bien compris quand il a dit, dis un seul mot et la situation sera réglée. Un mot du Seigneur. Ça dépasse tous les discours que l'on peut entendre. Ça dépasse toutes les pensées de ce monde. Ça a plus de puissance pour nous soutenir, pour nous secourir. Il y a une autre femme dans la parole qui a fait monter vers le Seigneur une simple prière aussi, qui a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Vous savez qui c'est, la femme samaritaine. Quand elle s'est retrouvée confrontée à son cœur qui était dévoilé, quand Jésus lui expliquait qu'il était la source d'eau vive, elle a dit tout simplement, Seigneur, donne-moi de cette eau. Elle avait essayé, elle, à sa manière, d'essayer de combler son cœur. Elle avait eu plusieurs maris, 5 maris, puis le gars avec qui elle était, c'était pas son mari. Elle avait une certaine idée de la religion, mais toutes ces choses ne remplissaient pas son cœur. Et quand elle s'est retrouvée face au Seigneur Jésus, et quand elle a compris que Jésus était la source d'eau vive, elle a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Quelle prière pouvons-nous faire monter au Seigneur ce soir? Est-ce que c'est celle-là? Oui. Seigneur, donne-moi ce dont j'ai vraiment besoin, ce qui va vraiment satisfaire mon cœur. Donne-moi cela, Seigneur. Je repense à Pierre. Vous savez, à un moment donné, Pierre, il a vécu une autre expérience avec le Seigneur. Bien plus tôt qu'avant le moment de la tempête, c'était la pêche miraculeuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand c'est arrivé, quand la barque était pleine de poissons, alors qu'ils avaient pêché toute la nuit, sans rien prendre? Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Il est tombé devant le Seigneur Jésus, mais à ce moment-là, il lui a fait une autre prière qui n'était pas bonne. Il a dit, Seigneur, retire-toi de moi, je ne suis qu'un homme pécheur. Est-ce que vous croyez que le Seigneur, il se plaît à se retirer des hommes qui disent qu'ils sont pécheurs? C'est totalement le contraire. Cet homme était convaincu de péché, cet homme avait compris que Jésus était le Fils de Dieu, et avait compris qu'il était le Tout-Puissant, Dieu fait chair, venu secourir les hommes, et il s'est retrouvé tellement, tellement sale, tellement petit devant lui. Et alors qu'il a dit cette parole, on comprend, on imagine ce que ça fait quand on l'a vécu nous-mêmes, quand Dieu nous a montré notre péché, on a dit, mais oui Seigneur, retire-toi de moi, pourquoi tu t'intéresses à moi? Mais justement, le Seigneur, il se plaît à venir auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Il se plaît à guérir les cœurs qui sont brisés. Il se plaît à purifier les cœurs qui sont repentants, qui reconnaissent leur tort, qui reconnaissent qu'ils ont fait le mal. Et alors que Pierre lui dit « Retire-toi de moi », Jésus lui dit totalement l'inverse. « Non, non, je ne veux pas me retirer, je veux au contraire t'appeler, me servir de toi. Tu seras maintenant pécheur d'homme. » Quelle grâce! Quelle grâce infinie de notre Seigneur! Ce soir, au travers de cette simple prière « Seigneur, secours-moi », nous pouvons mettre notre foi, dans la toute-puissance de Dieu, comme on l'entendait mardi, Dieu, à Dieu rien n'est impossible. C'est-à-dire que quelle que soit la situation que nous pouvons vivre, le Seigneur est capable et tout-puissant pour nous secourir à ce moment-là. Alors faisons monter vers lui cette prière. Et je voudrais qu'on prenne cette troisième prière, troisième et dernière, dans Luc chapitre 23, passage qui est bien connu également, au verset 39. Vous savez, c'est quand il y a deux malfaiteurs qui sont crucifiés à côté du Seigneur. Et il y en a un qui va faire une prière. Il y en a un qui va dire des paroles qui sont limite blasphématoires. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Est-ce que Jésus aurait pu exaucer cette prière « Sauve-toi » même si on va pas dire que c'est une vraie prière. Est-ce que Jésus aurait pu se sauver à ce moment-là? Il est tout puissant, on vient de le dire. Donc à ce moment-là, il aurait pu se sauver. Mais il est resté volontairement attaché sur la croix parce qu'il avait en vue un bien beaucoup plus important que le fait de son propre salut. Il avait en vue le salut de tous les hommes. Et alors qu'il entend ces paroles « Sauve-toi toi-même et même sauve-nous !» L'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi, qui subis la même condamnation ?» Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Est-ce que cet homme, à ce moment-là, avait intérêt à faire cette prière? Un peu plus longue, 5 mots. « Seigneur, souviens-toi de moi. » Est-ce qu'il avait intérêt à ce moment-là de le faire? Quand on sait comment ça se passait au niveau des crucifixions, c'est qu'il lui restait que quelques heures à vivre, tout au plus. Et à ce moment-là, cet homme a choisi, et en regardant ce qui se passait autour de lui, le Jésus, les paroles qu'il a dites, son cœur a été travaillé, et il a dit « Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. » Il a choisi, il a décidé que Dieu puisse s'intéresser à lui, même dans ses dernières heures de sa vie. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu est capable de sauver quelqu'un même dans les dernières heures de sa vie? C'est tout à fait possible. Et quand il dit « Souviens-toi de moi », il ne dit pas « Seigneur, souviens-toi qui je suis. Hein. Souviens-toi que je suis quelqu'un de bien. » Parce que cet homme-là, il ne pouvait pas dire ça. Un malfaiteur. On n'a pas beaucoup d'infos sur ce qu'il a fait, mais on sait qu'il était un malfaiteur. Quelqu'un qui a fait le mal. Un brigand qui a sûrement dû tuer, qui a sûrement fait une révolte. Peu importe, quelqu'un qui a fait le mal. Il ne pouvait pas dire, Seigneur, souviens-toi que je suis un homme bon. Hein. Non, c'est pas ça. Au contraire, il avait intérêt à dire, Seigneur, ne te souviens pas de mon péché. Souviens-toi par contre que je veux te suivre. Et je veux être avec toi dans le ciel. Je veux que dans l'éternité, tu puisses te souvenir de mon âme et qu'elle puisse être avec toi. Et cet homme a bien fait de faire cette prière puisque Jésus aussitôt lui a répondu, encore une fois, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que c'est possible que Dieu oublie notre péché? C'est possible. Dès l'instant où on se repent, dès l'instant où on le fait connaître, dès l'instant où on le confesse, Seigneur, il pardonne notre péché et il l'oublie. Dieu, il nous purifie de notre passé. Dieu nous donne la force de marcher dans le présent, de tenir bon, de tenir ferme. Et il nous donne même la joie, alors que tout le monde est dans la crainte et la peur. Il nous donne la joie quand on regarde l'avenir, parce qu'on sait qu'il viendra nous chercher. Et le résultat, c'est que les portes du ciel se sont ouvertes pour ce brigand qui s'est repenti. Et pour nous, est-ce que les portes du ciel sont ouvertes? Est-ce que nous pouvons entendre cette parole du Seigneur Jésus à l'intérieur de notre cœur, par le Saint-Esprit? Oui, si aujourd'hui je te reprenais, tu serais avec moi dans le paradis. Dieu peut-il nous sauver au dernier moment? C'est une question intéressante quand même. Et je parlais avec un monsieur c'est la semaine dernière qui me racontait cette histoire, un jeune homme qui était dans une famille protestante en Suisse, mais des protestants qui avaient vraiment la foi. Et alors que ce jeune homme, il avait des parents qui étaient vraiment pieux, qui avaient la crainte de Dieu, lui rejetait totalement ces choses. Il ne voulait pas entendre parler de Dieu. Il ne voulait pas lire la Bible, il ne voulait pas aller à l'église. Il préférait les sorties, il préférait aller avec ses amis. Et justement, un jour, il allait avec ses amis dans un lac, et pour une raison ou pour une autre, il s'est noyé dans le lac. Et alors que c'est passé, ses amis, ils ont commencé à dire, mais il est parti vers l'enfer. Ils ont pris le corps, ils l'ont ramené sur la berge, ils ont prévenu les secours. Les secours sont arrivés assez vite, ils ont essayé de le ranimer. Ça a duré des minutes et des minutes et des minutes. Et à un moment donné, il y a certains docteurs qui disaient « Bon, mais on arrête, on laisse tomber. » Il y a un jeune docteur qui était là, plein de fougue, lui, il dit « Non, non, moi je veux continuer. » Et alors qu'il continue, il continue à le ranimer. Et à un moment donné, il y a un mouvement qui se fait. Cet homme se réveille. Et alors qu'il se réveille, alors que toute sa famille, alors que tous ses amis pensaient qu'il était parti vers l'enfer, cet homme, il dit « Dieu soit béni, j'ai été pardonné. » Quelque chose de fou qui s'est passé. Et alors sa famille qui est là, se pose des questions un petit peu, elle dit « Bon, mais c'est peut-être le choc de la noyade, ça va passer, c'est temporaire. » Et ce jeune homme, il commence à lire la Bible, il commence à prier, il commence à aller à l'église, il commence à rendre service, à aller visiter des papiers mamies, à faire toutes sortes de choses. Et ses parents, ils sont un petit peu inquiets, ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Et puis un jour, quelqu'un vient lui poser la question. Et lui, il explique comme ça. Il dit, dans le centième de seconde où j'ai commencé à boire l'eau, j'ai crié vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour ma vie de péché. Et alors qu'il a fait cette prière, dans son cœur, il a reçu l'assurance que s'il mourait à cet instant, il allait dans le ciel. Dieu est puissant pour nous sauver, même juste à la dernière seconde, même jusqu'au centième de seconde. Dieu est puissant pour nous pardonner. Quelle grâce, quelle bonté de la part de Dieu. Oui, mais, parce que si je restais là, tout le monde dirait, bon, ben, après tout, je vais vivre ma vie, et à la dernière seconde, j'attendrai, je dirai, Seigneur, pardonne-moi. Mais est-ce que nous aurons tous le temps de voir la mort arriver et de nous préparer dans les derniers instants? Est-ce que nous aurons le temps? Est-ce qu'on peut savoir cela? C'est pas possible. Il y a des morts qui prennent un petit peu de temps. C'est des sujets un petit peu délicats que j'aborde là, ce soir. Mais des fois, c'est très rapide. Je pensais, c'était la semaine dernière, à Colomiers, des jeunes devant qui la vie semblait briller. Ils avaient que entre 17 et 20 ans, un accident de la route et ils ont été morts, instantanément. Est-ce qu'ils ont eu le temps de se préparer? Il n'y a que le Seigneur qui le sait. Mais ce que je sais par contre ce soir, c'est qu'aujourd'hui nous avons le temps de nous préparer parce que nous entendons la voix du Seigneur au travers de sa parole et nous sommes capables, en les quelques secondes qui viennent, de dire cette prière, « Seigneur, souviens-toi de moi. » Alors, nous allons incliner nos fronts et lui dire, Seigneur, oui, secours-moi. Seigneur, sauve-moi. Tu connais l'état de perdition dans lequel je me trouve. Tu connais peut-être la situation délicate dans laquelle je ne peux rien faire. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Est-ce que ce soir, ce n'est pas l'occasion pour quelqu'un d'avoir cette assurance dans notre cœur? Des fois, on voudrait que les gens nous disent que nous sommes sauvés. Et c'est vrai que quand on est sauvé, il y a des fruits qui se manifestent. Mais c'est d'abord un témoignage intérieur, le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes son enfant. Est-ce que ce soir, quelqu'un n'a pas besoin de vivre cette expérience? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Quelle prière faire? Eh bien, je vous ai donné trois exemples. Seigneur, sauve-moi. Si vous faites cette prière de tout votre cœur, avec le peu de foi que vous avez aujourd'hui, le Seigneur est capable de vous sauver, de vous pardonner, de vous transformer, de vous donner une vie nouvelle. Alors que dans ces instants, vous puissiez choisir peut-être une de ces trois prières et la faire vôtre véritablement, et la faire monter vers le trône de grâce. Merci Éternel pour ces instants. Merci parce que nous croyons que ta parole est vivante et efficace, Seigneur, pour convaincre les cœurs, pour instruire aussi. Jésus, merci de nous permettre que dans ces instants, nous puissions laisser ta parole faire son travail en nous. Merci pour ces exemples de prières. Oui, ce n'est pas une multiplication de vaines paroles, c'est des prières tellement courtes, mais qui peuvent faire tellement de bien à une vie. Seigneur, nous reconnaissons, pour l'avoir expérimenté, que une miette de ton action dans une vie, ça peut transformer les temps et les circonstances, ça peut transformer une existence, ça peut effacer tout le mal que nous en a pu commettre auparavant. Seigneur, Il n'y a que toi qui puisses faire quelque chose. Oh Jésus, nous venons devant toi en te demandant ta grâce. Tu vois aussi peut-être dans nos familles, les personnes pour lesquelles nous portons un fardeau, Seigneur, parce qu'elles ne te connaissent pas. Seigneur, nous voulons te les apporter aussi dans ces instants, afin, Seigneur, que tu puisses venir à notre aide, que tu puisses nous secourir. C'est vrai que nous sommes tellement impuissants face à tout cela, mais nous croyons, toi, que tu es tout-puissant, et c'est en toi que nous voulons mettre notre foi dans ces instants. Que ton nom soit béni. Amen.
Je pense que Pierre, le brigand, la syrophénicienne, après ces expériences, ont dû dire au moins merci. Vous ne croyez pas? C'est ce qu'on va faire avec ce chant qui dit « Je louerai l'Éternel hein, », s'il vous plaît. Nous avons un Dieu qui est puissant. C'est vrai que moi j'ai entendu plusieurs témoignages des gens dans la dernière seconde. Vous savez, c'est merveilleux. Vous savez, Dieu pourrait dire « Mais toute ta vie, tu m'as méprisé, mais c'est fini. » Franchement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Rien. Dieu pourrait dire « Mais toute ta vie, que ce soit 20 ans ou 50 ans ou 100 ans, toute ta vie, tu m'as rejeté, eh bien c'est ton problème. » Ouais, nous avons un Dieu qui est bon, vraiment. Et pendant qu'on va chanter ce cantique, je sais qu'il y a mon frère John qui a demandé qu'on prie pour lui. J'aimerais que tout en louant le Seigneur, je vais prier également pour John. Tu le connais ce cantique, Je louerai l'Éternel? Tu le connais? Tu le connais, Mégane? Tu le fais chanter, s'il te plaît? Hein? Voilà, on va le chanter. Hein? Et on va se lever pour le chanter. Parce que si Dieu, peut-être que Dieu vous a parlé ce soir. Si Dieu vous a parlé de ces prières courtes qu'il exauce, moi je ne pense pas que c'est pour nous parler de Pierre ou de Paul ou de la dame. C'est pour qu'on puisse reproduire les mêmes expériences. Que le nom du Seigneur soit béni. Louons-le. On ne peut pas. Après ce qu'on a entendu, ça serait vraiment de l'ingratitude que de nous séparer sans le remercier. Vous ne croyez pas? Hein? On va prier, on va chanter ce cantique, et pendant ce cantique, je vais prier pour toi. Si quelqu'un éprouvait le besoin de venir, eh bien venez, on est dans la maison du Seigneur, c'est une maison de prière, et nous aimons prier les uns pour les autres, car c'est quelque chose qui plaît à Dieu, ça, prier les uns pour les autres. N'hésitez pas à vous avancer pendant ce cantique. Merci, Michael.